Bonjour mesdames et bonjour messieurs. Nous allons démarrer cette table ronde autour de l'économie sociale et solidaire. Et nous avons des personnalités intéressantes et prestigieuses cet après-midi. Je vais commencer par vous les présenter. À la gauche de la table, je commence par les dames Béatrice Barras, qui est cofondatrice de la SCOP Ardelaine, qu'elle a fondée en 1982. Donc c'est une SCOP qui a déjà de la durabilité. Elle constitue d'ailleurs un pôle d'excellence rurale aujourd'hui. C'est un signe de reconnaissance publique fort. Et Béatrice a écrit notamment Mouton Rebelle, qui est un livre très intéressant qui relate son expérience. À ma gauche, Cyril Kretschmar, qui est le régional de l'État. À droite, Francis Vercamer est député du Nord et maire de la ville de M, H-E-M. Il a été chargé par le Premier ministre d'une mission sur l'économie sociale et solidaire. Cette mission s'est conclue sur un rapport que je vous encourage tous à lire si vous ne l'avez pas déjà fait, dont le titre précis est L'économie sociale et solidaire, entreprendre autrement pour la croissance et pour l'emploi. Et aujourd'hui, ça bouge beaucoup à la suite de son rapport. Il nous expliquera tout ça tout à l'heure. Et à la droite de la table, Jean-François Drapéry, qui est directeur du Centre d'économie sociale, travail et société au CNAM, qui est également rédacteur en chef de la revue des études coopératives, mutualistes et des associations, qui d'ailleurs a organisé cette table ronde. Il a écrit de nombreux livres, dont notamment « Rendre possible un autre monde », dont le titre me parle beaucoup. Et moi-même, Dominique Vielle, je travaille au ministère des Finances, que je ne représente pas du tout ici, et j'y suis chef de la mission contrôle écologie et développement durable, mais c'est parce que je suis un peu active dans la vie associative que je me retrouve ici devant vous.
Et donc, auteur d'un livre aussi.
Merci pour la publicité, Béatrice. auteur d'un livre qui s'appelle Écologie de l'apocalypse. C'est pas du tout mon titre, c'est celui de l'éditeur, mais le livre est intéressant quand même, je peux vous le recommander. Alors, l'économie sociale et solidaire, c'est 10% des emplois en France, et ça a un taux de croissance soutenu. Qu'est-ce que ça nous apporte et qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? C'est Jean-François Drapéry qui va parler le premier en nous présentant le panorama et les enjeux. À peu près en 10 minutes, chaque intervenant va présenter sa thématique. Après, il y aura un échange, mais assez rapide, entre les intervenants et on va garder le plus possible de temps pour les échanges avec la salle. Donc Jean-François, tu peux commencer.
Merci Dominique. Merci à toutes les personnes qui sont à la tribune d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Donc, je vais présenter très brièvement l'économie sociale ou économie sociale et solidaire, en disant effectivement, comme a dit Dominique, environ 10% des emplois, 8% du PIB. Mais ces chiffres, qui sont intéressants, évidemment, ne masquent en fait un phénomène beaucoup plus important, qui est le rôle structurant de l'économie sociale. Si par exemple on prend le temps des bénévoles passés dans les associations, ben on considère qu'il y a à peu près l'équivalent d'un million d'équivalents temps plein. Si on prend le rôle que jouent les administrateurs des mutuelles, des coopératives et des associations, c'est pareil. Si on prend par exemple les coopératives agricoles ou simplement les CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel agricole, c'est des toutes petites structures, il y en a environ 11 000 en France. En fait, elles ne représentent pas grand-chose ni en termes d'emploi ni en termes de participation au PIB. Mais par contre, s'il n'y avait pas les CUMA, il y aurait beaucoup d'exploitations agricoles qui ne survivraient pas. Donc vous voyez, il y a un rôle extrêmement important de ces structures d'économie sociale. Mais au fait, qu'est-ce que c'est? Alors maintenant, ces chiffres désignent simplement les entreprises coopératives, mutualistes et associatives, donc auxquelles on ajoute souvent les fondations. C'est ce qu'on retient en première définition de l'économie sociale, même si ça demanderait à discuter. Ces structures, vous allez me dire, quel rapport y a-t-il entre une CUMA, justement, le crédit mutuel, l'ADMR, comment, les services aux personnes en milieu rural, ou bien des coopératives de production, etc., etc., ou les grandes mutuelles type MGEN ou Massif? Eh bien, elles partagent d'être des groupements de personnes. En fait, c'est ça qui constitue le trait commun des entreprises de l'économie sociale. Elles se distinguent donc à la fois des sociétés de capitaux, qui réunissent des capitaux, et des petites entreprises qui sont en général unipersonnelles ou avec une petite quelques associés, mais qui sont marquées par l'initiative individuelle et qui sont les plus nombreuses en France. Hein. Et puis en même temps, c'est pas des entreprises publiques. Hein. Donc vous voyez, il faut bien définir cet ensemble qui est constitué par le fait que ce sont des personnes qui se regroupent, souvent des personnes physiques, mais ça peut être des personnes morales, comme par exemple les CUMA, c'est des exploitations agricoles, ou les coopératives artisanales, ou les coopératives de transporteurs. Donc vous voyez que l'économie sociale, les entreprises d'économie sociale, représentent finalement des groupements qui prolongent souvent l'initiative individuelle, qu'elle soit menée au sein, enfin, à partir de personnes physiques ou à partir de personnes morales. Elles sont actives dans tous les domaines, à peu près tous les domaines. En tout cas, les domaines qui sont compatibles avec les valeurs qui inspirent l'économie sociale. Quelles sont ces valeurs? C'est l'engagement volontaire des personnes. C'est-à-dire, on ne peut pas forcer quelqu'un à rentrer dans une entreprise d'économie sociale. L'égalité des voix en assemblée générale, en lieu et place de vote à partir du nombre d'actions dans les sociétés anonymes. Et puis la solidarité entre les membres. Vous voyez au passage que c'est la traduction de la devise républicaine dans l'économie. En fait, il y a une explication très simple à cela, c'est que l'économie sociale naît au début du 19e siècle, voire à la fin du 18e siècle, dans le sillage des idées des Lumières. Et de la même façon que la République s'est appropriée finalement l'héritage des Lumières, eh bien l'économie sociale s'est appropriée l'héritage des Lumières dans l'économie. Donc le projet de l'économie sociale, que ce soit à travers les associations ouvrières, à travers les coopératives de consommateurs, à travers les sociétés de secours mutuels, puis les associations de la loi 1901, eh bien ont pour objet, ces entreprises ont pour objet de démocratiser l'économie, hein, de faire en sorte que dans l'économie nous ayons chacun et la même liberté d'action que dans la vie civile, dans la société civile. Au passage, vous voyez aussi que ces entreprises d'économie sociale peuvent être toutes petites, elles peuvent être extrêmement grandes. Hein, on dit souvent c'est une petite économie qui occupe des niches, c'est faux. Hein, c'est vrai pour certaines d'entre elles, bien sûr, mais il y a évidemment dans le secteur bancaire, dans le secteur de l'agroalimentaire, dans le secteur de l'assurance, des poids lourds. Hein, les dépôts bancaires en France sont essentiels, sont à plus de 50% dans les structures de l'économie, dans les banques de l'économie, des banques coopératives. Donc vous voyez, et c'est pas un phénomène strictement français. C'est-à-dire qu'au niveau mondial, il y a près de 30% des dépôts bancaires qui sont dans des banques coopératives. Vous allez me dire, c'est pas pour autant que les placements sont différents. C'est une bonne question et un bon sujet de débat. je vous l'accorde. Même si ce sont les banques coopératives qui ont mis en place les premiers placements éthiques. Hein. Mais il y a de quoi. Donc ça veut dire aussi, à partir de ce petit exemple, c'est pour dire que l'économie sociale, elle ne vit pas en vase clos. Elle est en interaction permanente, évidemment, avec les marchés, avec les autres formes d'économie. Elle se situe sur des marchés. Pas toujours. Elle peut être non marchande. Mais en général, elle se situe sur des marchés. Les marchés sont très variables, ça peut être des marchés mondiaux, régulés par des normes internationales, ça peut être aussi des marchés locaux, comme par exemple les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, les AMAP, hein, qui sont des associations au niveau juridique, mais qui sont souvent proches des coopératives de consommateurs. Donc vous voyez, il n'en existait pas en France il y a 10 ans, il y en a à peu près un millier aujourd'hui. Vous voyez, c'est donc vraiment un phénomène intéressant. Eh bien, elles sont marchandes, mais sur des petits marchés locaux, elles permettent, disons, d'établir les circuits courts. Donc, l'économie sociale est en interaction permanente avec d'autres formes d'entreprises. On peut dire que dans l'esprit de l'économie sociale, ou en tout cas des leaders de l'économie sociale, les relations que les structures d'économie sociale entretiennent avec les autres formes économiques dépendent de ces autres formes économiques. C'est-à-dire que souvent l'économie sociale se considère comme prolongeant les petites entreprises, leur donnant des moyens de lutter sur des marchés complexes, et aussi comme pouvant prétendre à servir l'intérêt général. Donc je dis bien pouvant prétendre, c'est-à-dire que ce n'est pas l'économie sociale, là c'est un débat qui est un peu animé aujourd'hui entre économie sociale et entrepreneuriat social autour de cette question. L'économie sociale ne prétend pas défendre l'intérêt général. Hein, ce qui défend l'intérêt général, c'est les entreprises publiques. Elle défend l'intérêt collectif de ses membres. Mais dans certains cas, l'État reconnaît que cet intérêt collectif rejoint l'intérêt général. Par exemple, c'est le cas des mutuelles de santé en 1945, au moment de la création de la sécurité sociale. Donc il y a tout un on va dire, des liens privilégiés entre les collectivités territoriales et l'État et l'économie sociale, aussi au niveau des valeurs. Hein, il y a une complémentarité. Par contre, toujours au niveau des valeurs, il y a une opposition des valeurs des sociétés de capitaux, ou on va dire des régulations capitalistes et des régulations de l'économie sociale. Pourquoi ? Eh bien parce que la place du capital dans les structures d'économie sociale est tout à fait différente de celle qui est dans les sociétés de capitaux, puisque le capital est considéré comme un outil. Hein. D'abord, il n'y a pas nécessairement de capital dans les structures d'économie sociale, coopératives de consommateurs ou des associations n'en ont pas, pas forcément. Mais quand il y en a, la rémunération du capital est limitée, obligatoirement, statutairement. Hein. Par ailleurs, une partie des excédents de gestion sont mis dans des réserves impartageables, qui expriment la forme de la solidarité. Ce qui fait que l'économie sociale est directement ancrée dans les territoires. C'est-à-dire elles ne sont pas facilement délocalisables, elles ne sont pas opéables. Il n'y a pas d'intérêt à les délocaliser en général, parce qu'elles sont rattachées au territoire, parce que ce sont simplement les habitants, soit au titre d'usagers, consommateurs, soit au titre de travailleurs, qui sont copropriétaires et co-usagers de l'entreprise d'économie sociale. Donc vous voyez, on pourrait dire à partir de là que l'économie sociale peut participer à un projet de développement territorial de façon privilégiée par rapport aux sociétés de capitaux. Hein, je crois que c'est un point important aujourd'hui. Les enjeux, je vais peut-être terminer, les enjeux principaux, bon, on n'en finirait pas, et puis je pense que M. Vercamer et puis Kretschmer vont revenir sur la question, mais je dirais que peut-être le premier, c'est l'articulation au mouvement social. Aujourd'hui, la crise financière et la crise économique qu'elle masque presque finalement nous engage toujours plus vers une dissociation entre la vie sociale et la vie économique, et à la différence d'il y a une dizaine d'années, la société aspire, enfin on va dire la majorité de la société aspire à une autre économie. Ça, on l'observe dans toutes les enquêtes d'opinion. Est-ce que l'économie sociale sera à la hauteur pour répondre à ces aspirations? C'est pas sûr. C'est un retournement étonnant pour elle, parce que jusqu'à une dizaine d'années, elle était un peu dans l'entre-soi. Il y avait des débats internes, mais ça n'intéressait personne. Et la situation s'est retournée. Et aujourd'hui, il semble qu'elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend d'elle. Ensuite, il y a un deuxième enjeu, la reconnaissance de l'économie sociale par les universités, par les grandes écoles, fait qu'il y a des enseignements maintenant un peu partout, alors qu'ils n'existaient pas il y a jusqu'à une dizaine d'années. Ça, c'est un fait historique aussi. Il n'y avait jamais eu d'enseignement de l'économie sociale. Ça veut dire qu'il y a des nouvelles théories qui prennent l'économie sociale comme objet, mais qui le prennent uniquement comme objet de pratique et pas comme objet de pensée. Je pense que la capacité de l'économie sociale à produire sa propre pensée, comme elle l'a fait depuis 200 ans, est un enjeu crucial pour l'économie sociale. Ensuite, évidemment, le rapport avec les collectivités territoriales, avec les collectivités publiques, est un enjeu essentiel. Et enfin, sa capacité à peser sur les règles économiques internationales, qui pour l'instant est quasiment nulle, et qui peut la mettre en péril, c'est-à-dire que si elle s'avère incapable dans les années qui viennent à intervenir sur les règles comptables, sur les règles d'échange commercial, etc., eh bien, elle est tout simplement menacée de disparaître. Il est tout à fait possible que dans 10 ou 15 ans, on n'ait plus la possibilité d'entreprendre sous d'autres formes que la forme des sociétés de capitaux. Merci.
Merci Jean-François d'avoir particulièrement souligné la place de la personne au centre de l'économie sociale et d'avoir mis en valeur à la fois les attraits qu'elle a, mais les menaces qui pourraient peser à terme sur le secteur. Je passe maintenant la parole à Béatrice, qui va nous parler d'une expérience ardelaine et répondre notamment à la question, est-ce qu'Ardelaine est une coopérative de la filière laine ou est-ce que c'est une coopérative de développement territorial ?
Pour y répondre, il faut déjà que je vous explique un petit peu ce qu'est Ardelaine, donc ce qu'est son projet, ce qui a été cette construction et ce développement. Donc Ardelaine, c'est d'abord un coup de cœur, une révolte et une utopie. Alors, avec ça, pour faire de l'économie, c'est pas encore réussi, il va falloir transformer les choses. Le coup de cœur, c'est la découverte d'une ancienne filature qui commençait à tomber en ruine dans un village de 500 habitants au cœur de l'Ardèche, dans la moyenne montagne, avec une propriétaire un petit peu désespérée en disant ben voilà, c'est fini. Mais pourtant, les machines étaient là, la laine était là. Il semblait que peut-être ça allait disparaître d'un moment à l'autre, vraiment très rapidement, mais peut-être aussi ça pouvait renaître. Une révolte parce que les paysans jetaient la laine sur les tas de fumier où ils pouvaient la brûler parce que personne ne venait leur acheter, parce que donc un des effets de la mondialisation, et la laine pour ça est assez précurseur, c'est il y a très longtemps que la mondialisation de la laine est en œuvre. Donc il y a des pays qui sont producteurs de laine dans des quantités énormes, qui donc satisfont aux besoins des industriels qui eux ont besoin de quantités homogènes très importantes, mais par contre les petits éleveurs ardéchois avec leurs petits troupeaux de laine pas toujours homogène, donc évidemment c'était pas du tout intéressant pour eux. Et donc jeter la laine c'est une fibre qu'on a mis 10 000 ans à mettre au point, à travailler, à améliorer, ça veut dire jeter nos ressources, ça veut dire jeter ce dont on a encore besoin, on a encore besoin de laine à cause d'une économie à la fois mondialisée et industrielle dominante, voilà. Et ça, c'est révoltant, enfin en tout cas pour nous, c'était révoltant. Une utopie, c'est... ces petites filatures locales qui ont toutes disparu les unes après les autres parce qu'elles n'ont pas été adaptées à un monde industriel qui s'est développé massivement donc dans l'après-guerre, hein, à une économie mondialisée, est-ce que on peut rêver encore aujourd'hui d'avoir une économie localisée où à partir des ressources d'un territoire on génère de l'activité, on génère de l'emploi, on génère une valorisation locale d'une ressource locale. On peut rêver, hein. Donc, nous avons bien rêvé, mais nous avons aussi transformé nos rêves en projets et nous nous sommes donné des objectifs. Alors, hein, une petite manip, hein. Donc, le projet, comment on l'a structuré, comment on l'a pensé? Quand je dis on, c'est une petite équipe. Et cette petite équipe, en fait, avait pour expérience d'avoir fait des chantiers de jeunes ensemble et donc d'être pétrie de ce qu'on appelle l'éducation populaire, c'est-à-dire une forme d'éducation où tout le monde est capable d'apprendre, de transmettre ses savoirs, de faire ensemble. Là, en l'occurrence, c'était construire un village et voilà. Donc, on avait cette expérience-là qui était dans le domaine, on faisait ça l'été au soleil, sans impératif de production ni de rentabilité. Mais néanmoins, on avait appris là ce qu'était la coopération. Des gens qui, pour autant, ne sont pas formés pour faire quelque chose, mais réussissent à faire ensemble, à produire, à construire quelque chose ensemble qui a une valeur aussi, et en s'organisant ensemble et en régulant tout ce qui a régulé, mais en se donnant des objectifs communs. Et donc cette expérience dans l'éducatif, dans le domaine éducatif, on voulait aussi la transposer dans le domaine économique. C'était pour nous un défi de se dire que aussi dans le monde économique, dans le monde où ben, il faut payer les salaires, il faut faire un résultat, il faut répondre à toutes les règles qui sont les règles pour tout le monde de l'économie. On pouvait aussi faire de la coopération, on peut aussi travailler ensemble, avoir un projet commun et le développer. Et donc, c'est comment cette filature, on va la faire revivre. Donc, l'idée, ce n'a pas été de faire revivre la filature, mais de refaire une filature, comme on faisait autrefois, ni de faire un musée, parce que pour nous, justement, il n'y avait pas forcément dans un musée quelque chose de nature économique. Mais pour nous, ce qui était important, c'était de créer des emplois, et créer des emplois pour faire revivre ce territoire qui était vraiment, en particulier dans les années 70, au plus profond de la déprise rurale, et donc au plus profond de vieillissement de la population, et au plus profond du manque d'activité. Donc notre idée, ça a été de restructurer une filière laine locale, c'est-à-dire vraiment partir de la tonte des moutons, et puis transformer la matière et la commercialiser directement aussi, c'est-à-dire vraiment travailler sur toute la filière. Et puis, dans notre objectif, ça a été vraiment aussi que ce qu'on arriverait à faire, ce qu'on arriverait à générer comme activité, soit réellement un outil du développement local. Voilà, un outil de création d'activité. Parce que pour nous, le développement local, ça passe par la création d'activité. Les gens ne sont pas partis de gaieté de cœur, de leur village, de leur famille. Ils sont partis parce qu'ils n'avaient pas de boulot. Donc, maintenant qu'on a un projet et des objectifs, il va falloir voir comment on va faire. Donc, comment faire quand on n'a pas d'argent, quand on... Voilà. Eh bien, il y a un truc, ça s'appelle la solidarité. Il y a un autre truc, ça s'appelle la mutualisation des moyens. Donc, notre bande de copains, on a mutualisé nos moyens, on a mutualisé nos revenus pour arriver à investir. Donc, il y en avait qui allaient bosser, les autres qui faisaient avancer le projet, mais on mutualisait nos moyens de façon à dégager des possibilités d'investissement qu'on pouvait faire collectivement, mais dont on n'était pas capable individuellement. On s'est formé, on a fait tout ce qu'il fallait pour... Ça a duré 7 ans quand même, cette préparation, pour arriver jusqu'à la création de l'entreprise, donc en 82, qui était une SCOP. Donc on a choisi la SCOP, donc Société Coopérative de Production, parce que ça nous paraissait la forme vraiment la plus proche de ce qu'on espérait en termes de travailler autrement aussi. Les salariés sont associés, donc on met du capital. Les salariés élisent leurs dirigeants, donc ce n'est pas les actionnaires qui élisent les dirigeants, ce sont les travailleurs eux-mêmes. L'entreprise appartient aux salariés aussi, elle a une pérennité parce que, bien sûr, on ne va pas la revendre, ou les créateurs ne vont pas la revendre quand ils partent à la retraite pour faire leur petit capital. Non, elle perdure à travers les salariés qui continuent à la faire vivre et qui sont aussi associés. La répartition du résultat est bien différente aussi, puisque 45% du résultat chez nous est redistribué aux salariés. 45% est gardé en réserve dans l'entreprise pour sa pérennité, pour ses fonds propres, pour sa solidité financière. Et 10% sont distribués en dividendes. Autant vous dire que les fonds de pension américains ne se bousculent pas pour prendre du capital chez nous. Tant mieux. Et puis, pour nous, les bases de notre projet aussi, c'était travailler autrement, c'était produire sans nuire aussi, donc écologiquement, comment le travail de la laine pouvait ne pas nuire à l'environnement. Donc, on a rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui traitaient les toisons des moutons avec des produits qui craignaient beaucoup pour l'environnement. Donc là, on a fait des contrats avec nos éleveurs pour qu'ils ne traitent pas les toisons. On s'est rendu compte aussi que dans notre système économique, c'est plus on est en amont, moins on a de valeur ajoutée. Plus on est en aval, plus on a de la valeur ajoutée. Donc, évidemment, le producteur de matières premières, lui, il gagne rien. Et le commercial, il gagne beaucoup. Donc, nous, ce qui nous importait, c'était de rétablir dans cette filière une certaine équité. Bon, on parle de commerce équitable, mais nous, ce n'est pas que du commerce, c'est aussi production et commerce, quoi. C'est de retrouver de l'équité entre le producteur de matières premières. Donc là, on a travaillé sur les prix de la laine qu'on payait aux éleveurs de façon à ce que ce prix soit un prix honnête. Donc il y a pour nous un prix plancher et puis une valorisation aussi bien supérieure au prix du marché. Ensuite, que les gens qui travaillent soient payés voilà, bien sur leur travail, et aussi donc que le commerce ne soit pas un prédateur de la production, mais au contraire voilà, que ça soit quelque chose d'ensemble. Chez nous, on n'a pas de commerciaux, mais il y a beaucoup de gens qui produisent et qui vendent, et c'est ce qu'on cherche à faire. Ensuite, voilà, ça me fait perdre mon fil. J'accélère. Bon, alors les étapes, donc on démarre, ensuite pendant 10 ans, on produit, on vend, on développe le commercial, on fait même, on vend sur les salons en France et en Europe, et on crée 10 emplois. Les 10 années suivantes, on se dit que si on continue dans l'Europe comme ça, en fait, on se sent aspiré par... le commercial, quelque part, qui tire et qui nous amène dans quelque chose qu'on ne veut pas, qui n'est pas dans notre projet. Nous, on passait un temps fou sur les routes et à vendre plutôt qu'à faire vivre et à développer notre territoire. Donc là, on a arrêté, on a créé un musée qui, lui, a fait venir 20 000 visiteurs sur notre site, et donc qui, quelque part, a permis à notre territoire de bénéficier vraiment de cette venue, de ce flux de visiteurs qui ont aussi amené dépenser leur argent, louer des locations, etc., autour de chez nous, ont acheté dans les commerces, voilà, et permis de développer l'entreprise sur place aussi. Donc là, on se retrouve à 20 salariés. Et puis ensuite, donc, les 10 années d'après, on a continué à développer dans cet équilibre-là entre l'activité locale et aussi de la commercialisation en France uniquement, toujours en vente directe, pour créer encore 10 emplois. Nous, notre moyenne, on crée un emploi par an. Aujourd'hui, on est 45 salariés. On tond, on lave, on carde, on file, on fait des vêtements, on fabrique des matelas, on fabrique des oreillers, des tas de trucs, on les vend, toujours en direct. On tond 50 000 moutons, voilà. Et donc, on pouvait se dire, ben voilà, l'entreprise, c'est bien, on peut continuer comme ça, voilà. Et là, on s'est dit, en fait, quel est l'enjeu aujourd'hui auquel on doit répondre sur cette question de valorisation des ressources locales, de développement économique d'un territoire. Qu'est-ce qui va faire que dans 20 ans, Ardelaine existera encore, aura un équilibre, jouera son rôle? Son rôle d'entreprise de territoire, finalement, de coopérative de territoire, pour nous, ça devient ça. C'est d'une part, effectivement, d'avoir des partenariats aussi avec le secteur public. Là, donc, comment se rapprocher des collectivités locales, se rapprocher voilà, de l'intérêt général aussi. Et puis aussi, donc, la question alimentaire, qui pour nous, et nous paraît un enjeu important pour l'avenir, c'est... Donc notre territoire, il produit des tas de bonnes choses. Il produit des châtaignes, des moutons, des agneaux, des tas de choses qui sont des aliments. Comment on peut participer, nous, avec les acquis qu'on a, à la relocalisation aussi de l'alimentaire? Donc on a créé là un restaurant et un atelier de transformation des produits alimentaires, qui est complémentaire à notre coopérative et qui permet justement d'étendre la vocation d'Ardelaine, non plus uniquement à transformer la laine, mais être multi-activité, mais toutes dans le tronc commun de la valorisation des ressources locales pour générer une économie de territoire, quoi. Et donc une économie plein sol, hein, et non pas une économie hors sol, une économie qui n'est pas là pour faire de l'argent, mais une économie qui est là pour faire société, et pour faire une société dans laquelle on sera heureux d'inviter nos enfants. Voilà. Au revoir.
Merci Béatrice de nous avoir bien montré comment, à partir d'un projet qui aurait été condamné par la mondialisation et les exigences de rentabilité financière, comment avec des valeurs différentes, finalement, on pouvait réussir ses rêves. Je passe la parole à Cyril Creschman, qui va nous dire quel sens une politique publique peut donner au développement territorial.
Merci, c'est Kretschmar, mais c'est vrai que le nom est difficile. Hein, donc, non, il n'y a pas de problème. Donc je vais essayer en quelques minutes effectivement d'éclairer cette question qui est tout à fait complémentaire avec le premier propos introductif de Jean-François Drapry sur un portrait de l'identité des enjeux de l'économie sociale et celui qu'a dressé Béatrice avec une expérience concrète sur un territoire d'une entreprise coopérative de territoire qui est Ardelaine, la Corderie et tout cet ensemble donc, de projets coopératifs. Autour de cette articulation entre ces deux univers, l'économie sociale d'un côté, le territoire et plus globalement le territoire régional de l'autre, puisque je parle comme conseiller régional, alors en titre de mon côté. Simplement deux points. Le premier, c'est qu'est-ce que c'est que l'économie sociale à l'échelle d'une région ? Et puis mon deuxième point, c'est qu'est-ce que c'est que la région à l'échelle de l'économie sociale et solidaire ? Tout simplement. L'économie sociale et solidaire qui a été décrite par Jean-François dans donc ses contenus, ses règles, ses principes, son identité, ce sont un certain nombre de structures. C'est quelque chose comme 10 000 structures en Rhône-Alpes, si ma mémoire est bonne, en tout cas 200 000 emplois. Ce sont aussi des réseaux. Et ces réseaux, assez souvent, sont organisés à l'échelle régionale. C'est une première réalité qu'il faut constater, c'est que au-delà des réalités ou en deçà ou à côté des réalités qui sont portées par chacune des structures, il y a l'inscription de ces structures dans des réseaux très souvent régionaux. Ces réseaux régionaux ont un projet de développement, travaillent aussi à la mutualisation, à la capitalisation, à la solidarité des ressources. Et c'est aussi une réalité du développement du secteur qu'il ne faut pas ignorer. Elle est de plus en plus prégnante pour l'économie sociale et solidaire. J'en cite quelques-uns qui sont assez forts en Rhône-Alpes. L'Union régionale des coopératives, l'URSCOP, qui appuie beaucoup les coopératives. L'URIOPS, l'Union régionale des institutions et organisations de protection sanitaire et sociale, qui ne fédère pas toutes les structures, contrairement à l'URSCOP qui fédère toutes les SCOP, mais qui est puissante aujourd'hui. Quand vous êtes établissement sanitaire et social, si vous n'êtes pas membre de l'URIOPS, vous manquez beaucoup de soutien, beaucoup d'appui, beaucoup de professionnalisation. On pourrait parler des réseaux d'insertion par l'activité économique qui se sont structurés à l'échelle régionale depuis quasiment le début de l'insertion par l'activité économique. Les UREI, les délégations régionales du CORAS, de la FNARS, des régies de quartier, des chantiers d'insertion. Toutes ces structures ont des réseaux régionaux et elles ont même inventé un interréseau. Alors c'est la deuxième dimension intéressante pour nous en région. Si on a un peu du mal à travailler avec tous les réseaux de toutes les structures des communes sociales, c'est une des grandes richesses, mais une des difficultés des communes sociales, c'est sa pluralité, son immensité en termes de contenu, de secteur, d'identité. Quand nous avons des interréseaux, c'est très précieux parce que nous pouvons travailler avec un nombre un peu plus réduit d'interlocuteurs. Avec le temps, se sont constitués progressivement des interréseaux de l'économie sociale qui s'appelaient dans le temps les groupements régionaux des mutualités coopératives et associations, dont le siège était ici d'ailleurs, dans cette maison, les GRCMA. Et puis, il y a maintenant 5 ou 6 ans de mémoire, mais c'est variable selon les régions, se sont créées les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, les CRES. La CRES Rhône-Alpes est une structure puissante, organisée, compétente, performante et qui cherche à fédérer l'ensemble des familles de l'économie sociale et solidaire. C'est un vrai projet, c'est même un combat souvent, parce que une des difficultés aussi, mais Jean-François le décrivait assez bien dans son portrait, c'est que l'économie sociale et solidaire s'auto-définit elle-même. Il y a beaucoup d'associations aujourd'hui, notamment du côté des associations, c'est beaucoup plus vrai que du côté des coopératives et mutuelles, mais il y a beaucoup plus d'associations que de coopératives et mutuelles. Beaucoup d'associations ne se définissent pas comme des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Soit parce qu'il y a économie dans le terme, et pour l'association des pêcheurs à la ligne de ma commune, je pense que si je leur parle de l'économie sociale et solidaire, de la CRES, du travail qu'on fait sur la professionnalisation des emplois, je vais avoir du mal à trouver le diapason, l'accord avec eux. Et on ne peut pas leur reprocher. Ces acteurs n'ont pas la plupart du temps d'emploi, Donc c'est un des éléments qui construit l'économie aujourd'hui en France. On peut le regretter parfois, hein. Il y a plein d'économies sans emploi. Ou pas de réalité véritablement monétaire au-delà des cotisations, donc les cotisations parfois sont très faibles, mais là aussi il y a une économie sans monnaie qui est tout aussi intéressante que l'économie avec monnaie. Donc bref, une réalité dans la structuration de ces interréseaux, tout le monde ne se reconnaît pas dans ces trois familles que sont les associations, les coopératives et les mutuelles, et puis je peux rajouter les fondations, comme acteurs de l'économie sociale. Il n'empêche, aujourd'hui, en Rhône-Alpes, alors c'est vrai aussi, par exemple, en Nord-Pas-de-Calais, de plus en plus en Languedoc-Roussillon, en Île-de-France, au bout du compte, facilement dans une dizaine, voire une quinzaine de régions maintenant, les chambres régionales d'économie sociale et solidaire se structurent petit à petit et sont les lieux, non pas de représentation institutionnelle, parce que ce ne sont pas comme des chambres de commerce ou des chambres de métier, des organes qui sont institués par la loi et qui pourraient prélever l'impôt et obliger l'ensemble des structures à devenir adhérentes, ressortissantes de leur structure. C'est un regroupement volontaire. Mais ce regroupement volontaire commence à avoir un véritable effet. Et pour nous, c'est l'occasion de contractualiser avec ces chambres. La région Rhône-Alpes a un interlocuteur qui fédère suffisamment de monde pour que lorsque nous engageons une action, nous touchions beaucoup de monde en Rhône-Alpes. C'est la difficulté des collectivités. Lorsqu'elles s'engagent avec une association, Ardelaine par exemple, beaucoup d'autres associations vont leur tomber sur le dos en disant « et nous ». Donc les collectivités doivent trouver des intermédiaires, des interlocuteurs qui peuvent petit à petit capitaliser sur les actions qui sont engagées en commun. C'est ce qu'on a fait à travers ce qui s'appelle le contrat économique sectoriel de l'économie sociale et solidaire, qui pour la première fois en France a permis à l'État, et pas uniquement à la collectivité, à l'État, à la région et à la CRES, de s'engager pendant 3 ans sur une stratégie de développement. Avec donc à peu près 10 millions d'euros à la clé, 5 millions du côté de l'État, 5 millions du côté de la région, ce qui n'est pas négligeable. Au regard donc de la difficulté des acteurs, ça a été bien rappelé par Béatrice, à mobiliser des financements. Ce qui nous permet de mettre en place des dispositifs qui accompagnent des projets comme ceux d'Ardelaine, par exemple. Parce qu'ils sont insérés dans un ensemble donc librement consenti entre la « grande famille » entre guillemets de l'ESS, même si encore une fois la CRES ne représente pas tout le monde, mais un certain nombre de gens déjà, l'État et donc la région. Alors ça permet de faire un travail d'expérimentation et de généralisation. Ce que fait Ardelaine aujourd'hui donc du côté de Saint-Pierreville, ça nous intéresse beaucoup de l'imaginer du côté de Tournon et encore plus du côté de la Savoie, de la Loire ou de l'Ain. Donc on peut, étant financeur de projets mutualisés à l'échelle régionale, proposer aux acteurs de mettre en commun leurs expériences et de les diffuser, d'échanger, de les comparer, de faire effet d'expérience. C'est ce que fait n'importe quelle branche professionnelle. Les branches ont été inventées parce que les industriels eux-mêmes en avaient un peu marre d'être seuls dans leur coin et d'avoir à négocier pied à pied avec l'État ou avec telle ou telle administration. En fait, c'est une stratégie de branche, ni plus ni moins, mais autant que cela. C'est vrai aussi sur les effets de levier. Ce qui est impossible pour une structure devient beaucoup plus facile à l'échelle d'un réseau et encore plus facile à l'échelle d'un interréseau. C'est vrai en termes de visibilité. Donc, Jean-François l'a dit, une des difficultés, une des carences fortes de l'économie sociale, c'est sa notoriété dans l'espace public, dans l'opinion publique, auprès des élus d'ailleurs, auprès des acteurs économiques eux-mêmes. En fait, très peu de gens savent vraiment ce que représente cet univers un peu particulier et étrange pour beaucoup qu'est l'économie sociale. Ça nous permet de mettre en commun des moyens de communication. Donc les CRES ont inventé le mois de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est en ce moment, c'est en novembre, profitez-en, il y a plein d'événements. Et la région Rhône-Alpes donc, a surajouté des moyens en créant Rencontre solidaire, le mois de l'ESS en Rhône-Alpes. Donc vous avez 100 rendez-vous en Rhône-Alpes qui permettent de découvrir des coopératives, des associations, des mutuelles, de participer à des fêtes, donc des séances de cinéma, des débats comme celui d'aujourd'hui. On aurait pu l'inscrire dans Rencontre solidaire totalement. C'est vrai aussi au titre des synergies territoriales. Lorsqu'un acteur donc à Saint-Pierreville fait des choses et que à Priva, donc c'est le désert total en matière associative, enfin, c'est un exemple, hein, c'est totalement fictif. J'apprécie beaucoup le débat associatif qui a lieu à Priva, mais on peut peut-être l'activer un peu. On se dit, tiens, on pourrait, nous-mêmes qui avons des outils de développement territorial, ça s'appelle les contrats de développement durable Rhône-Alpes, donc la plupart des régions ont mis en place, hein, des outils qui contractualisent la relation entre la région, le conseil général et les collectivités, on peut dire, tiens, on va mettre l'ESS dans le pot commun, et puis on va se dire, il se passe quelque chose d'intéressant à Saint-Pierreville, À Privas, c'est un peu à tonnes. Pourquoi on ne pourrait pas imaginer que ces acteurs commencent à travailler ensemble, échanger, etc., etc. Certes, il y a le col à passer, mais quand même, ils peuvent sans doute faire des choses ensemble. C'est vrai sur les thématiques aussi. Quand une structure d'insertion par l'activité économique travaille dans son coin, une association intermédiaire, par exemple, et qu'une entreprise d'insertion juste à côté travaille dans son coin et qui ne se parle pas depuis le début, parce que les entreprises d'insertion, c'est sérieux, avec les associations intermédiaires, c'est pas sérieux, vu des entreprises d'insertion, et qu'au contraire, pour les AI, les entreprises d'insertion, ils font du business, ils font pas d'insertion. Bon, au bout d'un certain temps, nous, régions, disons, bah, écoutez, chacun nous demande de l'argent, on va se mettre d'accord, vous êtes toutes des structures d'insertion par l'activité économique, ok, bah, à ce moment, on travaille ensemble, on va peut-être mutualiser certaines choses, pas tout, il y a des choses qui vous appartiennent, vous avez des cultures différentes, des objets différents, mais si vous vous reconnaissez d'un ensemble autour d'un interréseau, à ce moment, on peut mobiliser de l'argent, des moyens, de l'intelligence à cette échelle-là. Ce qui nous permet de travailler sur tout un tas de choses, notamment, c'est une des innovations fortes de la CRES en Rhône-Alpes, le travail sur le dialogue social. C'est aussi un des paradoxes de l'économie sociale que n'a pas relevé Jean-François, mais il y travaille, je le sais. C'est une certaine difficulté à aborder donc, le dialogue social, la représentation des salariés, la représentation des bénéficiaires, quand ils sont considérés comme des bénéficiaires. Cette question, elle est normalement sui generis, c'est-à-dire qu'une structure de l'économie sociale est démocratique par excellence. Et on se rend compte au quotidien que c'est bien difficile, la vie démocratique à l'intérieur des structures, qu'il y a malgré tout des patrons et des salariés, et qu'il y a parfois même des sous-salariés, je suis désolé du mot, des bénéficiaires, c'est particulièrement le cas dans les structures d'insertion, et que les droits donc de ces différentes personnes sont difficiles à exercer. Donc nous avons créé donc avec l'État, avec la CRES, un espace régional de dialogue social qui permet aux partenaires sociaux, donc les partenaires salariés, donc les centrales syndicales classiques, et puis les syndicats du patronat de l'économie sociale qui existent et qui se structurent de plus en plus, le plus gros étant l'USGRS, mais il y en a d'autres, parce que pour l'instant c'est un patronat qui est encore un peu émietté, de travailler ensemble sur des objets, sur la formation, sur la seconde carrière, sur donc la capitalisation des compétences, sur l'accès à la validation des acquis d'expérience, etc., etc. Comme toute branche professionnelle. Fin de la première partie, parce que sinon je vais être trop long.
C'est déjà fait.
Plus tard. Deuxième partie en deux mots. Finalement, pourquoi la région s'intéresse à tout ça? On pourrait se dire, la CRES ou la CRES et l'État, ça suffirait. Nous avons un projet politique. C'est parce que nous sommes élus que nous avons un projet politique et justement, on nous reprochait de ne pas en avoir. L'économie sociale et solidaire est pour nous un élément essentiel de notre stratégie autour de la question de la transformation de l'économie. Nous ne voulons pas que l'économie sociale et solidaire envahisse toute l'économie, c'est clair. Donc nous ne voulons pas que toutes les entreprises deviennent des coopératives, des mutuelles ou des associations. Ce serait totalement irréaliste et assez démoniaque. Mais en revanche, pour nous, l'économie sociale et solidaire, c'est la tête de pont d'une transformation qui s'annonce de plus en plus autour de 5 facteurs, et je m'arrêterai là. Le premier, c'est ce que les économistes appellent l'économie de fonctionnalité, aller de plus en plus vers les usages des produits et services, et non plus uniquement les produits et services eux-mêmes. Faire en sorte que l'emploi, par exemple, c'est ce que décrivait très bien Béatrice, est un élément substantiel du produit que j'achète. Donc, ce qui me permet de faire le choix d'un produit en forte intensité d'emploi par rapport à un produit à faible intensité d'emploi. Deuxième axe, l'économie de proximité. Le fait qu'on puisse effectivement développer des stratégies, des scénarios qui accentuent la capacité des acteurs économiques à générer de la valeur ajoutée la plus proche des territoires. Ce qu'on appelle l'économie circulaire ou tout un tas de formes d'intensification de la création de la valeur ajoutée locale. L'économie de coopération. Nous avons, comme partout en France, mais encore plus que partout en France, des pôles de compétitivité qui permettent à des acteurs industriels d'investir sur de la recherche, du développement pour développer des produits, des services nouveaux. Mais nous proposons d'aller plus loin et de monter au-delà de l'épaule de compétitivité des pôles de coopération pour inscrire la stratégie des acteurs économiques dans des véritables dynamiques de coopération, comme dans les SCOP. Donc les acteurs économiques sont dans des statuts différents, mais quand ils font ensemble des choses, ils s'inscrivent dans des logiques de coopération au sens total du terme. Je vous renvoie au texte de François Perroux sur l'esprit de la coopération. Bien évidemment, le quatrième axe, c'est l'économie verte, l'intégration du développement durable dans les stratégies de développement, la réduction de l'empreinte écologique comme un élément, non pas de contrainte, mais de véritable opportunité de la création de valeur. Et puis enfin, le dernier point, mais ça ne vous étonnera pas, c'est l'économie démocratique. Donc ce n'est pas parce que je ne suis pas une coopérative que je ne me soucie pas de la place des parties prenantes de mon projet économique. Donc il y a des entreprises qui sont beaucoup plus démocratiques qu'un certain nombre de coopératives, et il faut travailler sur cette question. Donc la relation entre l'acteur du capital, le dirigeant, le salarié, les clients, les fournisseurs, ce qu'on appelle la gouvernance de l'entreprise, c'est un travail qui peut être revisité grâce aux expériences de l'économie sociale, et là il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Merci, j'ai été un peu long, pardon.
Merci Cyril, c'était un plaisir de vous entendre décrire une véritable stratégie pour la région Rhône-Alpes qui met non seulement de l'argent dans ce secteur mais qui met beaucoup d'intelligence, et on sent que vous êtes dans une dynamique et que ça ne va pas s'arrêter là. Je crois que vous êtes la région pour le moment la plus en avance, donc ça va susciter l'émulation, j'en suis certaine. Et vous avez pointé au passage des marges de progrès dans l'économie sociale et solidaire, comme par exemple mieux travailler ensemble ou avoir un dialogue social plus fluide. Donc c'est intéressant d'avoir ces remarques-là.